L'équipe de C'est pas du vent s'est mise au vert, mais pas d'inquiétude, on vous laisse avec les meilleurs moments de l'émission.
C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, aujourd'hui nous vous emmenons au Timor oriental. C'est une des îles de l'archipel indonésien à près de 4000 km au nord de l'Australie. Meurtri par une guerre civile, puis par 24 ans d'occupation indonésienne, ce petit pays d'un million d'habitants est devenu indépendant en 2002. Depuis, avec l'aide de l'ONU et la manne des ressources pétrolières, il se reconstruit, mais pour l'instant, un Timorais vit en moyenne avec 1 dollar par jour. L'une des priorités du gouvernement est la lutte contre la malnutrition. Depuis une dizaine d'années, le programme Les Semences de la Vie vise à augmenter les rendements agricoles sans aucun produit chimique, et ça marche.
Le long du chemin, comme vous pouvez voir, on fait pousser différents types de plantes. Du chili, du manioc, des pois d'angole, des grenades. Dans seulement 2 mètres carrés, on a au moins 10 variétés différentes de plantes. C'est ça la permaculture. Les avantages sont nombreux. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de plantes qui sont des plantes compagnons. Elles vivent très bien ensemble. Certaines produisent des nutriments pour d'autres. D'autres apportent de l'ombre. Le deuxième avantage est de réduire les risques d'insectes. La monoculture est facile à attaquer. Ici, c'est plus difficile aux insectes de s'établir. Tout est mélangé.
Pierre Lefebvre a rencontré tous les acteurs de ce programme que nous vous ferons découvrir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
Au-delà de ses ressources en hydrocarbures comme le pétrole et le gaz, le Timor oriental a un atout majeur, la beauté de ses paysages et de ses fonds marins. L'île d'Ataoro, située en face de Dili, la capitale, est un véritable paradis que ses habitants ont décidé d'ouvrir aux touristes pour en tirer des revenus, mais pas au détriment de la qualité de leur environnement, comme l'a constaté Pierre Lefebvre.
Je m'appelle Osai Soares. Nous construisons actuellement un centre de formation à l'écotourisme.
Qu'est-ce que vous allez accueillir donc ici dans cette sorte d'école d'écotourisme?
Actually, Ataoro Island is the full of natural resources in tourism.
En fait, l'île d'Ataoro possède beaucoup d'atouts pour l'écotourisme, mais la communauté d'Ataoro a peu d'expérience et de connaissances dans ce domaine. Ce centre va permettre de former les personnes de l'île qui veulent apprendre l'accueil et les services dans ces pensions.
Comment est-ce qu'on associe ici en fait tourisme et puis en même temps préservation de l'environnement, parce que c'est un lieu absolument magnifique qui est encore très préservé?
Avec les connaissances de base que nous avons, on essaie de promouvoir une île authentique, un écotourisme basé sur l'environnement naturel que nous avons. Alors on n'a pas besoin de construire de gros hôtels, pas comme à Bali ou dans d'autres endroits où on construit de grands bâtiments sur la plage.
Pourquoi ici vous privilégiez plutôt des écologes, c'est-à-dire des lieux d'accueil pour les touristes, qui essaient d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement?
Les bâtiments écologiques basés sur les ressources naturelles que nous avons ne vont pas avoir d'impact sur l'environnement. Une fois détruits, ils reviendront à la terre. Alors on construit nos bâtiments à partir de matériaux comme les palmiers, du bois ou des feuilles de cocotier, des matériaux qui viennent d'Ataoro. C'est une économie durable et l'argent utilisé pour cela revient à la communauté à qui on achète ces matériaux.
Ce rapport au tourisme, à l'écotourisme, est-ce que ça a changé le regard des gens sur la nature qui les environne?
Community now realize that they
Les gens ici réalisent maintenant que le tourisme permet de rapporter plus d'argent à la communauté. Ce n'est pas seulement offrir un paysage, la mer, les belles vues panoramiques. Le poisson, par exemple, la communauté peut le vendre au restaurant. Du coup, ils auront plus d'argent pour leurs enfants, pour les dépenses pour l'école et acheter des choses pour la maison, de la nourriture ou d'autres choses, pour répondre aux besoins de leur famille.
Nous vous emmenons à présent visiter une petite pension encore très modeste. Le propriétaire croit en son projet et espère bien qu'elle se développera dans les prochaines années.
Je m'appelle Mathès Bello et je suis le propriétaire d'une pension, la Villa Gracia. Nous sommes devant le seul bâtiment de la pension. Il y a deux chambres et nous envisageons dans le futur de construire un petit restaurant, ici à droite. Et à côté, il y aura également un petit bâtiment pour un café internet.
On peut visiter alors, vous nous montrer un peu votre domaine. Alors, il faut retirer ses chaussures parce que c'est tout propre à l'intérieur. Voilà, on rentre à l'intérieur. Alors donc, là, ça, c'est une des chambres ici alors.
C'est une des chambres. Elle a ses propres toilettes.
Alors là, on va entrer. Donc c'est la salle à manger ici. Il y a une chaise, deux, trois. Il y a trois chaises avec une petite table et une autre table de l'autre côté avec quelques tasses, des verres. Je sais qu'il y a du monde à l'étage, mais est-ce qu'on peut monter quand même?
Oui, il y a deux chambres, comme je l'ai dit. Une est au rez-de-chaussée, et si vous voulez, nous pouvons monter voir la seconde à l'étage.
Bah, on y va. Voilà, on monte le petit escalier qui permet d'arriver à une seconde chambre avec deux lits d'une personne. Et il y a un petit balcon. Voilà, on va aller sur le petit balcon. Qu'est-ce qui vous a donné envie, en fait, de faire un écolodge?
Primero est à...
D'abord, c'est parce que je veux utiliser les ressources naturelles que nous avons ici et qui appartiennent à toute la communauté. Quand nous les utilisons, nous les achetons à la communauté et l'argent revient ainsi aux habitants de l'île. Deuxièmement, c'est simplement parce que je trouve très beau l'utilisation des matériaux naturels dans la construction de bâtiments.
Quand même, il y a un toit qui est en tôle. Bon, ça, c'est pas vraiment un matériau local. Ça veut dire que ça, c'est provisoire.
On était un peu pressé pour terminer le bâtiment à cause de la saison des pluies qui arrivait. Alors, on a mis de la tôle. Mais dans le futur, je prévois d'utiliser plus de matériaux naturels dans cette écolodge, et en particulier pour le toit. On va mettre de la paille sur le toit. Il fera bien moins chaud à l'intérieur. Et puis encore une fois, avec les matériaux naturels qui sont produits ici, l'argent que nous dépensons revient entièrement à la communauté, ce qui n'est pas le cas avec la tôle qu'on va acheter dans un magasin.
La pension de Lina, la Timoraise, et de Barry, l'Australien, où nous nous rendons à présent, est la plus ancienne de l'île et la plus importante. Les choix écologiques y sont plus affirmés.
Bonjour, je m'appelle Lina, je suis Timoraise. Je suis la propriétaire de cet endroit.
Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tour un peu de votre écolodge et que vous nous expliquiez en quoi, finalement, cet écolodge est écologique.
Alors, comme vous pouvez le voir, pour tous les bâtiments ici, nous utilisons du bambou, du bois, tout ce que vous voyez est local.
Alors, en fait, cet écolodge, c'est une série de petits bungalows. Hein. C'est ça, vous pouvez accueillir combien de personnes ?
Désormais, nous pouvons accueillir environ 30 personnes de façon confortable.
Alors, on arrive près d'un de ces petits bungalows, par exemple. Est-ce que vous pourriez nous le décrire ?
C'est un de nos petits bungalows ici. C'est très simple. Il y a seulement un lit, une moustiquaire et une petite commode. Et vous pouvez voir que le toit est recouvert de paille ou d'herbe. Pour les murs, on utilise seulement des bambous et du bois.
Quel confort climatique ça apporte en fait ce type de construction ?
Dans la saison chaude, cette maison est fraîche parce qu'elle est recouverte d'herbe et non pas de tôle. Parce que la tôle est brillante et en plus ça chauffe beaucoup. En construisant ce bâtiment, on voulait que les gens s'y sentent vraiment bien. Et sous le toit, il y a un espace qui permet à l'air de circuler. Parce qu'on n'a pas d'air conditionné ou de choses comme ça. On a juste une ventilation naturelle.
On continue la visite, hein.
Ici, on peut voir beaucoup de fleurs et d'arbres. Toutes les fleurs sont locales ici.
Toutes les plantes que vous avez plantées ici, en fait, sont originaires de cette île.
Ce sont des plantes indigènes. Elles viennent toutes de l'île, pas de Dili ou d'ailleurs. Je vais vous montrer nos salles de bain et nos toilettes. On utilise des toilettes sèches à compost. Parce que, vous savez, dans l'écotourisme, on ne veut pas nuire à notre environnement, notamment en gaspillant l'eau. On utilise le compost pour les fleurs et le jardin. Et dans la salle de bain, c'est ce qu'on appelle le système d'eau grise. On utilise du savon naturel et l'eau va directement arroser les plantes qui sont derrière. Est-ce que vous pouvez voir les plantes derrière ? Ce sont des plantes à fruits, des bananiers.
En fait, on est ici, vraiment près des toilettes et il n'y a aucune odeur.
Oui, parce qu'on met de la sciure de bois à l'intérieur des toilettes pour éviter d'avoir des odeurs. Il y a deux tuyaux sous les toilettes qui montent au-dessus du toit. Du coup, l'odeur monte aussi et vous ne sentez rien du tout.
Et l'eau que vous utilisez ici, c'est de l'eau de pluie ?
L'un des problèmes principaux de l'île, c'est l'eau. Parfois, on a beaucoup d'eau de pluie, mais parfois, on n'a pas de pluie pendant 3 mois, parfois même une année. Alors, c'est un gros problème. On va chercher de l'eau de source pour que nos hôtes puissent faire leur toilette et pour qu'on puisse faire la cuisine et boire. Mais dans la saison humide, bien sûr, nous collectons l'eau de pluie.
D'accord, alors, je vous propose d'aller voir... Alors, ça, c'est pas les toilettes, c'est la salle de bain, c'est ça, c'est la... Là, en fait, il y a un bac qui est fait avec du béton et dans lequel il y a de l'eau. Donc, il n'y a pas de douche, par exemple.
Parce que si nous utilisons une douche, on doit utiliser de l'électricité et on n'a pas d'électricité. Alors, c'est très basique, mais beaucoup de gens aiment ça. Pour faire sa toilette, vous utilisez juste ce récipient que vous remplissez d'eau pour vous rincer. Ce n'est pas vraiment une douche, vous devez travailler.
Il y a un petit réseau électrique ici, sur l'île. Est-ce que vous êtes relié à ce réseau électrique ?
Non, on n'utilise pas l'électricité produite dans l'île. Parce qu'on s'appelle écologue. On veut que tout soit naturel. Alors on utilise seulement des panneaux solaires.
D'accord, alors ce sont ces panneaux solaires qu'on voit là-bas ?
Oui, les panneaux solaires sont là-bas. Chacun des bâtiments a ses propres panneaux.
Si les touristes viennent à Ataoro, c'est pour la beauté des terres, mais aussi pour les extraordinaires fonds marins et les poissons qui les peuplent. La population du petit village de Bekili, consciente de l'importance de protéger ce patrimoine, souhaite la mise en place d'un parc marin. Pour le tourisme, bien sûr, mais pas seulement.
Je m'appelle Cornelo Gomez et je suis pêcheur.
Est-ce que vous pêchez toujours autant de poissons qu'auparavant ?
De mon point de vue de pêcheur, non. Avant, on pêchait beaucoup de poissons. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On en pêche de moins en moins.
Est-ce que vous pensez que la création d'un parc marin ici, ça va améliorer les choses ? Les poissons, le stock de poissons va pouvoir se reconstituer et vous allez pouvoir pêcher de nouveau autant qu'auparavant ?
Je crois que le parc marin est très important. Ça va permettre de stopper la disparition du poisson. Ils reviendront plus nombreux. Bien sûr, c'est aussi une façon de surveiller les pêcheurs, pas seulement sur le volume de pêche, mais aussi sur la taille des poissons.
Mais alors du coup, ça va limiter quand même l'espace où vous pouvez pêcher. Est-ce que ça vous fait pas un petit peu peur ?
En tant que pêcheur, je suis d'accord avec le fait de ne pas pêcher dans les aires protégées, parce que c'est très important pour notre vie dans le futur. Pas seulement pour notre génération, mais aussi pour les prochaines générations qui viendront pêcher ici.
Certes, l'écotourisme est encore émergent à Atoro, mais il est passionnant parce qu'il révèle de la capacité de la communauté locale à s'organiser pour le bénéfice de toute la population de l'île. Nous rejoignons sur la plage Karen Alibé, experte en conservation de la nature, qui enseigne à l'Université du Timor-Leste.
Mon nom est Karen Alibé, je travaille à l'Université de Timor-Leste.
Alors sur l'île d'Ataro, il y a le développement d'une activité économique autour justement de la nature. Il y a des écologes. Est-ce que ça, c'est une situation qui est beaucoup plus favorable, à votre avis, à la fois au respect des populations locales et en même temps à la préservation de la nature ?
En fait, Ataro a développé des projets d'écotourisme pour la communauté. Ils ont construit des écolodges et développé aussi des activités de plongée avec masques et tuba. Des sorties en bateau dans les parcs marins qui sont gérés localement. Et ça génère des revenus importants pour les villageois. Du coup, il y a une prise de conscience de plus en plus importante de la nécessité de protéger les écosystèmes côtiers et les ressources naturelles. Pour moi, c'est un très bon exemple de ce qu'on peut faire au Timor. Ici, on a une communauté insulaire qui a reconnu la nécessité de protéger l'environnement, mais qui a aussi développé une économie locale importante. Elle gère les ressources naturelles en établissant un système de gouvernance locale. Et Roman Luan, une ONG locale, a joué un rôle important pour organiser les communautés d'Atoro et pour les aider à développer une vision sur ce qu'ils souhaitent pour l'avenir. Pour moi, c'est tellement important dans un pays qui est l'une des plus récentes nations du monde. Qui doit piloter le futur de ce pays ? Est-ce que ce doit être des agences étrangères, incluant aussi évidemment des ONG environnementales, ou est-ce que ce doit être la population elle-même et les ONG locales ? Je pense qu'on doit être respectueux de ce que les gens veulent. La communauté internationale est juste là pour fournir de l'aide et des conseils.
De Pierre Lefebvre, réalisé par François Porcheron. Si désormais vous avez envie de partir au Timor, vous trouverez toutes les coordonnées sur la page internet de l'émission www.rfi.fr. Restez avec nous, de toute façon vous ne serez pas mieux ailleurs. On se retrouve dans quelques minutes, toujours au Timor. Nous verrons comment le gouvernement réussit à augmenter les rendements agricoles pour lutter contre la malnutrition, mais sans aucun produit chimique ni organisme génétiquement modifié. A tout de suite.